Bonjour et bienvenue sur Radio Tropique et dans cette nouvelle émission de Résonance. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission en direct. Et je voudrais tout d'abord vous dire en ce début d'année que toute l'équipe de Résonance Contemporaine se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et douce année 2014 et pour partager avec vous et garder à notre esprit cette très belle formule de Jean Cocteau. Nous ne savions pas que c'était impossible, alors nous l'avons fait. Voilà une pensée qui va guider nos pas tout au long de cette année 2014 et qui sera notre emblème pour toutes nos émissions à venir. Au sommaire de cette émission, le compositeur canadien Raymond Moret-Schaeffer sera notre fil rouge tout au long de cette émission, tant sur le plan de la pensée que de la musique. Né en 1933 dans l'Ontario, Raymond Moret-Schaeffer jouit d'une renommée nationale et internationale en tant que compositeur, éducateur, écologiste, chercheur et artiste visuel. Il a une production musicale et littéraire assez volumineuse et plusieurs de ses livres ont été traduits dans de nombreuses langues. Ensuite, deux invités dans notre émission d'aujourd'hui. Nous rejoindrons tout d'abord Célesta et Albert Strickler, directeur de l'ESAT Évasion. C'est un pôle artistique où la musique, le théâtre, les arts plastiques, une salle de diffusion font de ce lieu un espace de culture, de rencontre, de création ouvert à tous. Puis ensuite, j'aurai le plaisir d'accueillir dans ce studio de Tropique FM Madame Michèle Pierret, directrice générale de l'ADAPEI de l'Ain, et nous évoquerons ensemble la place de la culture aujourd'hui au sein de l'ADAPEI de l'Ain et donc la question de l'accès à la culture, à l'offre culturelle, aux pratiques artistiques des personnes en situation de handicap mental. Mais pour l'instant, voici Parole d'auteur, Parole de compositeur avec Josie Josserand.
Je pense que tout compositeur, enfin tout être humain, est fondamentalement original. Nous sommes tous différents, tant au niveau de l'apparence que de la voix. Chacun de nous a une voix unique et pourtant, vous reconnaissez tout de suite vos amis lorsqu'ils téléphonent. Vous ne les voyez pas, mais vous reconnaissez leur voix. Et nous portons tous des vêtements différents aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous habillés de la même manière. Donc, d'une certaine façon, nous sommes tous indépendants les uns des autres et j'imagine tout ce que tout artiste recherche et cela s'applique à la danse, aux arts, au visuel, au cinéma, à la musique et au théâtre. C'est cette voix originale, cette apparence originale, ce motif original qui, si vous avez de la chance, constitue une marque distinctive qui n'a jamais encore été vue, perçue ou entendue sur la terre. Je pense que les grands artistes sont ceux qui proposent quelque chose de tellement original que lorsque vous y jetez un coup d'œil, vous dites seulement « C'est incroyable, je n'ai jamais vu rien de tel auparavant. Je n'ai jamais entendu rien de tel auparavant. » Si nous recherchons l'originalité dans nos œuvres, je crois que c'est parce que nous sommes nous-mêmes originaux. Chacun de nous est original. Nous n'avons pas tous la même apparence, ni la même voix, ni le même cheminement de vie. Je crois donc que nous avons une obligation personnelle de créer notre propre empreinte, notre propre message, notre propre signature vocale ou notre propre façon de bouger ou de travailler. Raymond Moret-Schaeffer, compositeur.
Thème est en résonance. Nous écoutions ensemble un extrait du quatuor numéro 6 de Raymond Monré Schaeffer, interprété par le quatuor Molinari, célèbre quatuor canadien qui défend notamment beaucoup toute la musique d'aujourd'hui pour quatuor à cordes. Alors nous allons rejoindre, comme promis, je vous l'ai annoncé tout à l'heure dans notre sommaire de l'émission, nous nous rendons à Célestat et nous allons rejoindre maintenant Albert Strickler. Albert ?
Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans cette émission de Résonance Contemporaine. Les AT Évasion, c'est un établissement de l'APEI Alsace et puis il développe une aventure maintenant passionnante depuis plusieurs années. Et si on va sur le site de l'Évasion, justement, on peut lire que loin de stigmatiser le handicap, on met en valeur la différence. On encourage la dynamique des rencontres et on vit au quotidien la richesse des échanges. Le tout dans une permanente effervescente créatrice où chacun se sent tiré vers le haut en donnant le maximum de soi-même à travers l'ouverture aux autres. Voilà déjà une belle entrée, si je peux dire, en tout cas, qui nous dit déjà beaucoup de choses sur cette dynamique forte. C'est tout un programme, je crois.
Oui, mais j'ai aussi lu sur votre papier présentant votre partenariat avec Tropic.
Oui.
Qu'effectivement, il y avait un petit slogan, je crois, qui disait à peu près « Donner la parole et accompagner tous ceux qui vont sur les chemins de la création artistique ». Et je crois que c'est très important parce que nous croyons ensemble que ce chemin-là, il est source de belles rencontres et permet non pas de gommer les différences, mais de les tolérer, de s'enrichir réciproquement.
Est-ce qu'on peut dire, peut-être, Albert Strickler, en quelques mots, comment est partie cette aventure pour que nos auditeurs aussi, qui découvrent justement un petit peu l'existence d'Évasion, voilà. Comment c'est parti, comment ça s'est forgé une telle aventure ?
Nous sommes donc tout d'abord à Célestat, dans le Bas-Rhin, dans un des berceaux de l'humanisme.
Aussi.
Et et puis quand j'ai entendu la petite musique de Murray Schaeffer, c'est quelqu'un qu'on avait accueilli à Célestat en 2000 pour une opération formidable, mais c'est hors sujet. Alors
d'accord.
En fait, disons, l'API Centre-Alsace, Alsace-Centre-Alsace, avait toujours favorisé donc l'expression artistique sous toutes ses formes et avait envie d'aller un peu plus loin sans savoir sur quel chemin encore s'engager. Et finalement donc l'option a été prise en 2004 parce qu'on est tout jeune, on fête
oui,
nos
c'est
10
2004
ans
finalement.
Aujourd'hui, oui, 2004, on fête nos 10 ans cette année. L'option a été prise de créer un CAT, donc aujourd'hui ESAT, établissement de services d'aide par le travail, qui serait dévolu donc à la pratique artistique. Et nous avons commencé vraiment dans l'underground, comme on dit chez nous, là-dedans, au sous-sol d'un foyer, avec l'aide et à la grande surprise de la DAS à l'époque. Et nous avons commencé par ce qui était deux dominantes à l'API Centre-Alsace, c'est-à-dire les arts plastiques et la musique. Nous avons d'abord commencé par faire des prestations, tout allait bien, on a aussi un peu équilibré
tout
le budget,
bien.
Le budget, oui, et c'est après, disons, que l'association, l'API, a eu l'opportunité d'acquérir un bâtiment qui était mitoyen à ce foyer pour y installer ce qui est aujourd'hui une de nos vitrines, à savoir une salle de spectacle-galerie, que nous appelons l'espace d'échange culturel et qui nous permet effectivement d'avoir cette vitrine, mais en même temps sinon on serait dans une espèce de ghetto, alors que là on a tout de suite mis en avant le principe de mixité, c'est-à-dire c'est un espace autant pour ce qui est des plasticiens ou des autres spectacles que nous accueillons, donc qui sont à la fois soit qui viennent de notre spécificité, soit qui sont effectivement des artistes comme dans n'importe quelle salle de spectacle.
Là, je crois que c'est quelque chose de très important, Albert, que vous soulignez, c'est-à-dire que effectivement, c'est pas un lieu qui n'accueillerait que des réalisations effectuées, réalisées, imaginées par des personnes en situation de handicap, mais c'est un lieu de croisement, un carrefour finalement de l'expression artistique et là de tout un chacun.
Absolument, et ce qui fait que effectivement nous avons pu avoir effectivement un lieu d'accueil, on a pu faire venir, mais en parallèle, on a tout de suite compris qu'il fallait aussi beaucoup sortir, et nous sommes, je crois, on peut lire avec fierté, devenus un vrai acteur culturel de la ville, puisque que ce soit la journée du patrimoine, la nuit des musées, la fête de la musique, nous avons des des podiums, des tribunes un peu partout, et on est aujourd'hui reconnu, disons, comme étant cet acteur, un acteur pratiquement privilégié, et le mot handicap qu'on mettait en avant au début, maintenant on ne se pose plus trop la question, on est rentré dans le paysage avec notre singularité, et c'est plus ou moins considéré comme une richesse, ce qui était notre but, quoi.
Est-ce que ça a été de fait d'être inscrit, d'être repéré, d'être pris vraiment comme une entité, comme une autre, qui apporte aussi, bien sûr, par ses propres réalisations, son regard aussi dans ce paysage culturel, ça a été quelque chose qui a mis du temps ou c'est quelque chose qui s'est relativement vite imposé?
À la fois, disons, je dirais, bon, c'est pas une réponse de Normand et en Alsace, mais c'est à la fois les deux.
Ouais, oui.
Ce qui a contribué à faire venir les gens, c'est donc le fait de sortir, d'aller à la rencontre.
C'est ça.
C'est-à-dire, quand nous avons animé le parvis de l'église Saint-Georges, où il y a effectivement donc un lieu qui a été aménagé pour des spectacles, ou quand nous avons notre propre podium au cœur de la ville qui se prête pour la fête de la musique, des Célestadiens ou des gens d'Alsace centrale nous disent « Ah, c'est ça ce que vous faites, on a envie de venir vous voir. » Donc, une fois qu'ils ont vu, ils étaient non pas vaincus, mais convaincus. Hein, et ça, c'était très, très important. Alors, pour vous dire les deux dernières bonnes nouvelles que nous avons eues, parce que bon, on continue à, bien sûr,
à
ramer, ne serait-ce que sur le plan budgétaire, mais on a aussi de temps à autre des nouvelles qui nous galvanisent littéralement. Donc, on a appris la semaine dernière que notre spectacle Ombre et Lumière, donc, est intégré dans les régionales, hein, donc c'est un dispositif important, comme n'importe quelle autre
compagnie. Comme n'importe quelle autre compagnie et spectacle.
Et là, donc, à l'unanimité, et le même spectacle, donc on vient d'avoir une proposition de jouer deux fois dans le cadre du grand festival Giboulet des marionnettes, TJP à Strasbourg. Donc pour nous, c'est à la fois une reconnaissance artistique, et parallèlement à ça, après avoir commencé à douter, donc l'ARS, hein, donc après le relais de la DAS, qui est notre organisme de tutelle, a la première fois stipulé qu'elle reconnaissait notre singularité. Et ça, c'est aussi très important pour nous, puisqu'on a toujours le fait d'avoir créé cette salle de spectacle galerie, nous a amené à une autre activité, hein, c'est-à-dire
bien
une activité
d'exploitation
de salle avec des métiers techniques,
c'est ça.
Qui est, comme toutes salles en France et en Navarre, déficitaire, et donc notre budget, on est toujours sur le fil, quoi.
J'imagine. Voilà. Est-ce que ça veut dire aussi, Albert Strickler, que du coup, c'est l'exigence aussi du projet artistique qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus dans le fait de percevoir les personnes uniquement au travers du manque, du handicap ou de la manière dont peut-être on a tendance à les stigmatiser, mais que du coup, c'est parce que aussi quelque part, il y a une grande exigence vis-à-vis du projet artistique proposé. Et comme, vous le citiez là juste, que ce spectacle maintenant fait partie de toute une dynamique régionale, c'est pas simplement parce que c'est des personnes handicapées qui réalisent cette chose, c'est bien parce que c'est le contenu artistique finalement qui l'emporte.
Et de même, c'est pareil au niveau, je pense que nous partageons ensemble avec votre compagnie l'exigence artistique sans laquelle nous ne sommes pas crédibles.
Hein. Tout à fait.
Sinon, on a l'impression, sinon les gens vont être condescendants avec nous, ce qui n'est pas le cas. Là, ils s'enrichissent à notre contact. Hein, et des artistes qui sont venus et disent, ils ne viennent pas simplement de façon condescendante, mais ils apprennent à notre contact, et cette différence, elle est créatrice. Alors ça, c'est très important, c'est pareil au niveau des arts plastiques, hein, puisque du tableau aux cartes de vœux, en passant par les enseignes ou les étiquettes de vin, enfin tout ce que vous voulez, on est tout le temps en concurrence avec d'autres prestataires, et donc il n'y a pas de règles à part pour nous.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est... Ça nous importe, hein. C'est très important.
Donc, est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui, si on pose ce qui peut être une manière de le repérer justement dans l'environnement médico-social, entre guillemets, hein, je mets ça entre guillemets, l'étiquette ESART artistique, on peut, au regard de ce que vous nous évoquez, que pour le moment, ce n'est pas une contrainte ou une difficulté ou une pour aller, en tout cas, vis-à-vis du domaine culturel, vis-à-vis de Comment ça se passe de votre point de vue sur ce regard-là?
Non, nous avons senti des réticences, voire des résistances au début. Parce que donc la vitrine, comme vous le savez, nous l'avons complétée très rapidement par une autre grande vitrine qui est notre festival Charivari,
hein,
de façon biennale ou Tanzmann. La première année, quand nous sommes arrivés, effectivement, les gens ne savaient pas trop. Aujourd'hui, Ben aujourd'hui, disons, on a conquis les gens qui nous accueillent, ce qui fait que on est attendu. Donc, ce qui change tout, quoi. Et puis, la première année, les personnes essayaient de repérer au sens premier du terme quelles étaient les personnes handicapées, etc. Aujourd'hui, ils se posent plus la question. Ce qui les intéresse, c'est d'un spectacle de qualité derrière lequel il y a une exigence et de prendre du plaisir ou d'être amené à la réflexion sans effectivement mettre en avant la question du handicap, sans, comme je disais avant, sans qu'on ait pour autant cette réalité-là, quoi, évidemment.
Ça veut dire aussi que les partenariats, alors ça veut dire d'accueillir des artistes, ça veut dire que je sais que vous avez des collaborations avec le CFMI, centre de formation musiciens intervenants, vous accueillez des peintres, il y a des musiciens, je sais qu'il y avait des relations avec les percussions de Strasbourg, par exemple.
Absolument,
aussi.
Absolument, disons, on multiplie ces rencontres, et puis on aimerait bien, disons, agrandir les locaux pour faire encore plus de résidences, hein, c'est effectivement. Donc,
l'idée de résidence d'accueil.
On avait déjà eu une ou deux cette année, et ça nous permet effectivement, ça permet à nos personnes de chausser les bottes de sept lieues, hein, parce que souvent, une présence comme ça sur 15 jours ou d'une compagnie, ça vaut 6 mois de formation, quoi.
C'est évident. Donc c'est peut-être un peu les. Si on voudrait peut-être pour terminer ce petit moment de cet entretien et les perspectives à vos yeux aujourd'hui, c'est-à-dire les axes importants qui vous sembleraient se faire jour aujourd'hui par rapport à cette expérience depuis 2004 maintenant.
Il y a un autre projet qui avait émergé très rapidement, mais qu'on ne pouvait pas mener tout en parallèle. C'est la notion qui est également donc la vôtre de centre ressources. Mmh. Et aujourd'hui, donc on avance dans cette direction et dans la programmation de l'évasion cette année. Nous avons notamment des conférences, débats qui vont dans ce sens. Qu'est-ce que c'est qu'un centre? Qu'est-ce que c'est que produire un spectacle en langue des signes? Là, on va accueillir Emmanuel Labourie. Enfin bon, pour vraiment. Et la première conférence débat a fait le plein, hein, sans que les gens soient venus de très loin. Mmh. Parce que là, parallèlement à ça, donc nous avons beaucoup de relations aussi avec des structures du service qui accompagnent le handicap psychique. Hein, et puis nous sommes également là pour répondre à leurs problèmes d'isolement, etc. Donc on est aussi là pour favoriser l'accès à la culture. Hein, c'est-à-dire que très souvent, en lien avec le Conseil général, nous faisons l'intermédiaire pour que les gens puissent aller au spectacle.
Oui, tout un travail de médiation qui aussi se développe.
En plus, oui.
Voilà, c'est ça.
Nous avons déjà fait de façon, de façon très, très subtile et évidente, mais là maintenant qui est marquée et travail auquel nous sensibilisons, notamment la région, le département, la DRAC. Donc il faut dire que tout le monde nous regarde avec bienveillance. Il s'agit maintenant de coordonner, de fédérer et puis surtout aussi de faire le lien avec les autres structures qui sont partout, comme la vôtre.
Tout ce maillage aussi national.
Il est absolument important.
On est d'accord.
Voilà.
Albert, en tout cas, ce que l'on peut dire, merci mille fois déjà pour ce témoignage.
Merci à vous pour votre accueil.
Et puis, ce qu'on peut se dire aussi, puisque dans cette émission, c'est un petit peu un des principes en tout cas, c'est que nous avons, nous constituons un petit peu un réseau, là aussi, de correspondants dans chacun de nos départements, et puis bien au-delà. Et c'est qu'on vous rappelle régulièrement. À ce moment-là, on aura des nouvelles de l'évasion. Et puis, on pourra aussi approfondir certains sujets.
Absolument.
Et ça sera avec un grand plaisir qu'on vous retrouvera, en tout cas.
Et on peut très bien, d'ailleurs, sans jeu de mots, devenir une antenne.
Absolument. Et ça, c'est à y réfléchir comment on pourrait faire.
Voilà.
Volontiers. À très bientôt,
merci,
Albert.
Merci tout plein pour votre accueil. Et puis, beaucoup de belles choses pour Tropic et pour Résonance en 2014.
Là. Merci, Albert.
À très bientôt.
Au revoir. Vous êtes toujours sur Tropic FM avec Résonance. Et là, nous écoutions ensemble un extrait du quatuor numéro 3 de Raymond Monré-Schaeffer, toujours interprété par le quatuor Molinari. Et puis nous retrouvons justement la parole de Raymond Monré-Schaeffer.
Il n'y a plus d'enseignants. Il y a seulement une communauté d'apprenants. Si nous avions suffisamment d'humilité pour comprendre que nous aussi, nous sommes là pour apprendre et que nous n'avons pas les réponses à toutes les questions, l'éducation, à mon avis, constituerait alors un échange beaucoup plus dynamique de renseignements, d'idées et d'autres choses encore. Raymond Monré-Schaeffer.
Voilà, ce compositeur et cette parole de compositeur pour... introduire aussi notre deuxième invité dans cette émission de Résonance, et je suis vraiment ravi de pouvoir accueillir Madame Michèle Pierret, directrice générale de l'ADAPEI de l'Ain, à ce micro dans cette émission. Bonjour.
Merci Alain, bonjour.
Alors on voit au travers des paroles et puis de Monré-Schaeffer, mais aussi toutes, vous avez assisté à l'entretien aussi avec Albert Strickler.
Et oui, avec voilà. Grand intérêt, oui.
Voilà, hein, qui lui aussi à la PUI d'Alsace, donc là aussi association similaire,
oui.
Relayée bien sûr par une association nationale, l'UNAPEI.
L'UNAPEI, bien sûr.
Voilà, qui est à Paris. On va pouvoir aborder ensemble aussi bien sûr ces questions de culture, mais peut-être comme je sais que vous êtes là que depuis quelques mois, peut-être un sentiment comme ça général, à la fois de découverte bien sûr d'un département qui est celui de l'Ain, ce territoire, et puis ce qu'il est en tant que tel, les gens, et votre sentiment comme ça de puisque vous nous veniez plus du sud.
Oui, oui, c'est vrai, mais c'est un département chaleureux et accueillant. Voilà, c'est pas c'est quand même un carrefour de croisement,
c'est vrai.
Donc il y a énormément de c'est multiculturel en fait, hein. Sur la question en fait du handicap et de la culture, je trouve quand même un département très ouvert. Très ouvert. Alors, nous avons un projet d'ailleurs commun, Alain.
Absolument.
Et dans lequel il y a quand même un engagement fort du Conseil général de l'Ain.
Tout à fait.
Avec une participation depuis fort longtemps, parce que moi, en fait, je suis là que depuis le mois d'avril. Mais vous, ça fait quand même très longtemps que vous travaillez à justement ouvrir le monde de la culture au monde du handicap. Et ça, moi, l'impression que j'ai, c'est que le Conseil général est partie prenante dans cette affaire, hein, d'ouverture. D'ailleurs, ils ont initié une rencontre culture et handicap, de ce que je sais, c'était en mai 2001.
Tout à fait, l'idée, un grand rassemblement à ce moment-là.
Voilà, l'idée, c'était de créer un réseau. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la notion de réseau est très importante.
Complètement. Hein. C'est ce qu'essaye de faire aussi au travers de cette émission, ce tissage en réalité aussi avec les acteurs de terrain, donner la parole aux uns et aux autres. Voilà, c'est aussi un des enjeux effectivement de cette émission, de travailler à ce maillage justement.
Oui, ce maillage, il est important pour les professionnels, mais il est important aussi pour les personnes handicapées. C'est que ni les uns ni les autres ne sont plus seuls. En fait, hein, l'idée c'est de sortir de l'isolement quand même.
Oui, complètement.
Sur l'engagement du Conseil général, le Conseil général soutient les percussions très fort quand même, qui ben, pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant et qui pour moi est quelque chose de très magnifique, hein, vraiment. Je me régale moi, à chaque fois dans les percussions très fort. Et bien évidemment, j'ai connu Résonance Contemporaine. Je sais aussi qu'au niveau des instances qui nous soutiennent, qui nous accompagnent, puisque ça c'est vraiment important d'être accompagné.
Complètement.
Nous avons aussi le soutien de l'Agence Régionale de Santé, en la personne de Philippe Guetta, qui est le délégué territorial. Donc là, on sait qu'on a un appui. Et puis, vous travaillez aussi de façon très proche avec la DRAC, hein, alors qu'il y a un niveau régional, mais il y a quand même aussi une démarche départementale. Et donc, du coup, c'est tous ces acteurs-là qui sont importants, parce que c'est vraiment les prérequis en fait, pour aller un peu plus loin.
Et je dirais, par rapport au département où vous étiez au préalable, vous sentez une différence, en tout cas, comment ont été abordées toutes ces questions-là ?
Oui, mais...
Les engagements n'étaient peut-être pas les mêmes au niveau des collectivités ou au niveau des acteurs aussi de terrain. Ça dépend de la richesse, bien sûr, de chacun des territoires.
Oui, alors je ne veux pas me mettre à dos le département de l'Aveyron.
Bien sûr, et surtout pas.
Non, c'est pas la même approche. On est dans l'Aveyron, dans un département un petit peu isolé au niveau des axes routiers. Donc, on n'a pas le même brassage, en fait, culturel.
C'est sûr que Rhône-Alpes est un gros foisonnement effectivement culturel par la richesse des acteurs, des structures aussi qui sont là et des départements bien évidemment. Alors on abordait déjà avec Albert Strickler bien sûr la place de la culture. On sait aussi que depuis de nombreuses années on a déjà des avancées, c'est-à-dire que sur un point de vue législatif on peut penser à bien sûr déjà la loi de 75 posait déjà des choses, même si c'était pas
aussi clairement,
que va le faire la loi 2005.
Tout à fait.
Avec tout ce que cela comporte. On voit bien d'ailleurs un petit peu là, en ce moment, puisque 2015 est une des dates, il y en a d'autres au travers de cette loi, mais qui stipule que tous les lieux, tous les ERP, comme on dit schématiquement, mais tous les équipements publics, les lieux qui reçoivent du public, doivent se mettre en conformité, justement, là, dans le domaine de l'accessibilité aux bâtis, par exemple, à tous ces bâtiments. Alors, on voit que les mentalités bougent, on voit, etc. Mais on sent encore aussi que tout ça n'est pas simple. Et j'imagine, vous étant à la tête de l'association départementale, ici, de l'ADAPEI de l'Ain, le fait que celui qui est différent, alors quels que soient les marqueurs de cette différence, finalement, reste encore un combat au quotidien pour cette acceptation. Comment vous le percevez ?
Concernant l'accessibilité, en ce qui nous concerne, au niveau de l'ADAPEI de l'Ain, on parle bien de l'accessibilité pour les personnes handicapées mentales.
Bien sûr.
Donc, ce qui est un peu une spécificité. Elle n'est pas simple à faire, parce que les installations techniques, vous parliez du bâti tout à l'heure, c'est une chose. Et c'est vrai que maintenant, technologiquement, on est quand même avancé. Il y a des évolutions qui sont faites et au quotidien, on y trouve des applications. Mais concernant les personnes handicapées mentales, c'est un peu plus complexe. Il faut vraiment être à l'écoute, être attentif pour pouvoir inventer, innover sur des outils d'accompagnement qui sont accessibles intellectuellement à ces personnes. Donc, c'est toute la difficulté. Alors, par rapport à la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, il y a eu des avancées, notamment il y a un guide pratique de l'accessibilité qui évoque pas seulement le bâti, qui évoque aussi la prise en compte du handicap mental et du handicap psychique d'ailleurs.
Complètement. Oui, il va nous amener qu'effectivement il faut avoir accès au lieu parce que sinon effectivement on ne peut pas bénéficier de ce qui s'y passe. Oui. Mais ce qui va être doublement important, c'est comment on va avoir un accès au contenu.
Oui, voilà. C'est ça. Comment comprendre, comment expliquer, comment être suffisamment simple. Et c'est vrai que dans notre société, on a plutôt tendance à complexifier les échanges qu'à les simplifier. Parfois, il suffit juste d'un sujet, un verbe, un complément et on comprend. En tout état de cause, ce que je trouvais intéressant dans cette avancée de la loi 2005, c'est que on essaie de forcer un petit peu pour faire évoluer nos regards et dépasser en fait le sentiment de charité pour entrer dans une philosophie universelle des droits égaux pour tous. Et notamment, dans l'accès aux droits fondamentaux, il y a l'accès à la culture. Voilà. Alors, c'est comment, pour nous, de façon très pratique, comment permettre l'accès à la culture pour des personnes en situation de handicap mental ou de déficience psychique.
Il se passe beaucoup de choses dans les institutions. On sent aussi que depuis, cette notion de culture, justement, on a très vite senti. Alors, on pourrait remonter même jusqu'à Esquirol, justement, à cette époque-là, où déjà la musique, il y avait énormément de concerts. Alors, avec des visions différentes, on essayait d'approcher la personne aliénée et autres, de comment on pouvait essayer de la soulager finalement de ses souffrances. Mais il y avait déjà des concerts, il y avait déjà plein de choses qui s'essayaient. Et on a Gérard Bonnefoy, alors qu'on n'aura pas aujourd'hui dans notre émission, mais qui nous fait une rubrique justement régulière et qui nous raconte un peu de cette histoire aussi de la présence de la culture au sein de l'hôpital, au sein, puis petit à petit, de ce qui va venir le médico-social. Mais un petit détour pour dire aussi que nombreux sont quelquefois les éducateurs, les médecins, les équipes aussi, les directions qui se sont préoccupées effectivement. Et dans l'Ain, pour en avoir bien sûr fréquenté plusieurs, on sait qu'il se passe aussi déjà un certain nombre de choses. En tout cas, il y a une conscience des équipes, de l'enjeu de ce que peut avoir la culture vis-à-vis de tous ses résidents et usagers.
Oui, simplement avec un petit bémol que je mettrais, c'est-à-dire qu'on a beaucoup développé tout ce qui est art-thérapie. C'est bien, je trouve ça intéressant. Après, il ne faut pas qu'on reste enfermé dedans. C'est-à-dire que la culture, c'est quelque chose pour moi qui est naturel et qui doit le rester. Bien sûr qu'on développe, et vous le savez très bien vous-même, on développe des conceptions éducatives, pédagogiques à travers la culture. C'est tout un langage un petit peu médico-social qu'on a. Mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose de trop stéréotypé parce que la culture, c'est quelque chose qui doit se réinventer chaque jour. Et ça, il faut laisser cette liberté-là à la culture et au lien que la personne, qu'elle soit handicapée ou pas, peut avoir avec la culture.
Là, je crois que c'est important aussi, c'est-à-dire du coup déterminer ce qui est de l'ordre du soin, ce qui peut être de l'ordre de la thérapeutique, et puis bien sûr de ce qui peut être aussi en dehors de ça, vraiment l'expression de la personne, son imaginaire, son inventivité, tout ce que vous venez de dire. Et on sait que c'est encore, même si le débat a avancé, il y a encore une difficulté de lisibilité, enfin, en tout cas, quelquefois, suivant... je pense que ceux qui sont engagés dans l'art-thérapie, ceux qui sont engagés quelquefois dans la musicothérapie, quelquefois il y a des lignes bougeantes où elles sont un peu confuses. Mais effectivement, une personne en situation de handicap, quelle qu'elle soit d'ailleurs, peut être aussi un amateur en tant que tel.
Bien sûr, même un professionnel.
Alors on peut pousser jusque-là, effectivement.
Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut éviter, c'est le clivage.
Voilà.
Tout simplement. Il faut rester simple. Je crois que c'est vraiment le maître mot.
Oui. Ça me paraît important. Alors du coup... vous arrivant ici, voilà, et on vient déjà de montrer l'importance que la culture revêt aussi également pour vous. Comment les choses se dessinent à votre, les axes que vous recherchez ici, maintenant, au niveau de l'ADAPI de l'Ain, par rapport à cette place de la culture, où il semble aussi que c'est important que les associations, quelles qu'elles soient, on pourrait parler de l'UNAFAM, l'APF, puissent aujourd'hui, elles l'avaient à un certain moment donné de manière assez forte, on va dire depuis, ça ne veut pas dire que ces préoccupations ne le sont pas, toujours aussi présente, mais il n'y avait pas forcément peut-être le discours. Alors, il n'y a pas que le discours et l'action, bien entendu, mais à un moment donné, aussi poser des paroles fortes et je dirais même une vision politique de la chose est importante. Comment vous le percevez aujourd'hui ou vous souhaitez pouvoir aborder ces questions-là au sein de l'ADAPI de l'Ain?
Eh bien, en fait, moi, je me suis rendu compte que tous les établissements de l'ADAPI de l'Ain mettent peu ou prou un axe culture au sein des projets des personnes. Bien sûr, c'est en fonction de la demande de la personne handicapée, mais c'est toujours été une préoccupation. J'en veux pour preuve les percussions de Tréfort. Enfin, je crois que c'est vraiment le point d'orgue, on va dire. Mais dans tous les établissements, on a la masse de Montplaisant, des artistes peintres. Donc c'est l'artistique, c'est vraiment un versant. Par contre, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est de définir comme étant une politique, une politique fondamentale de tous nos projets. Voilà. Donc ce qui va un petit peu évoluer à l'ADAPI de l'Ain, c'est qu'on va développer cette politique comme étant vraiment partie intégrante du projet associatif.
Associatif. Hein. Là, voilà. C'est donc lui donner une place très importante, effectivement.
Tout à fait. Voilà. C'est une place importante, autant importante que, par exemple, l'aspect, tout ce qui touche au médical, parce que voilà, y a besoin de soins, il y a besoin de soins infirmiers, de soins psychothérapiques, mais l'art, c'est aussi, ça favorise aussi l'épanouissement de la personne handicapée.
Et puis du coup, ça peut, Albert Strickler nous l'évoquait aussi tout à l'heure, finalement changer les regards et puis vraiment prendre conscience que et il est important pour que tout chacun ait sa place, quelle que soit son identité ou ce qu'il est, puisse participer à ce commun.
Oui, alors l'idée en fait pour moi, et ce que je vais traduire dans le projet associatif avec le président bien évidemment, l'idée c'est d'aborder les potentiels en fait des personnes au-delà du handicap, c'est-à-dire voir aussi ce qui est possible et pas seulement ce qui est un empêchement. Et donc c'est ouvrir le champ des possibles. Aujourd'hui, on a plutôt dans notre secteur médico-social, on a plutôt tendance à approcher la personne sous l'angle de ce qu'elle ne peut pas faire. Or, il y a énormément de choses qu'elle peut faire, et c'est ça que je préférais mettre en avant. Bien sûr, on sait quelles sont les difficultés dans des situations de handicap diverses, parfois qui se surajoutent, mais c'est pas là l'important, enfin, puisque ça, on le sait. Alors, allons voir l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est possible de faire. Et à ce niveau-là, je crois que les personnes handicapées ont énormément de leçons à nous donner, parce que quand je vois quand même ce que vous êtes capable d'accompagner avec les percussions de très fort, c'est-à-dire avoir des personnes qui je serais incapable moi de faire ce qu'elles font, hein, parce que voilà, c'est, j'ai pas appris, et puis parce que je sais pas le faire, et je suis admirative quand je vois ces personnes qui sont de véritables professionnels de la musique.
C'est là où on rejoint finalement la parole de Monray Schaeffer de tout à l'heure, quand il parlait que finalement, là aussi, il fallait déplacer le regard, qu'on était tous des apprenants finalement,
oui,
des uns et des autres.
Exactement.
Et que quelle que soit finalement la situation, qu'on soit handicapé, pas handicapé, chacun a, justement, peut apporter à l'autre et on peut apprendre de l'autre.
Oui. Hein,
et effectivement, et ça, je crois qu'effectivement, il y a une lucidité, si on pourrait dire ça, hein, importante. À remettre peut-être au goût du jour, quels que soient finalement les gens avec lesquels on travaille.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir avec des a priori.
Voilà, alors ça, c'est là où on voit aussi, et certainement on évoquait le législatif là tout à l'heure, ça a permis aussi peut-être un peu d'abord de poser des droits, et ça c'est important, et peut-être mettre en branle, si je pourrais mettre ce terme, un peu les mentalités aussi également.
Eh bien, en réalité, les lois, elles précèdent rarement ce qui se passe. Généralement, on fait les choses et ensuite les lois les entérinent. Celle-là, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle rend universel en fait l'accès aux droits pour les personnes. Et c'est ça qui est important à souligner. C'est de, on le faisait tous dans nos établissements. On a tous eu à cœur de permettre aux personnes de s'épanouir à tous les niveaux. On parle de la culture, il y avait aussi le sport.
Tout à fait.
Mais là, ce qui change tout, c'est que c'est une loi fondamentale qui s'installe.
Qui s'installe et donc du coup oblige les uns et les autres dans son organisation.
Oui.
Et on parlait des établissements publics tout à l'heure, et on voit bien que ce soit les musées, que ce soit les cinémas, que ce soit les théâtres, les efforts conséquents qui ont été faits en quelques années. Voilà, on est bientôt à 10 ans maintenant de cette loi, et on voit que là aussi il s'est passé un certain nombre de choses. Peut-être que là où encore on en a encore un petit peu plus à faire, c'est peut-être, on parlait aussi tout à l'heure du contenu, c'est-à-dire que là c'est aller assister, c'est découvrir, c'est partager, mais aussi faire, effectivement. Et peut-être que là encore, je pense notamment aux personnes en situation de handicap psychique ou mental, que là aussi il y a une pensée, que là aussi il y a une vraie réflexion aussi qui existe, des intelligences différentes, et que du coup ces accès au contenu doivent permettre effectivement cela, et peut-être aussi que les pratiques artistiques ont ce rôle, c'est-à-dire que du coup au travers de ces pratiques il y a peut-être une redistribution des rôles, justement peut-être des compétences aussi également, qui peuvent se faire jour, et qui semblent peut-être, enfin en tout cas une autre manière d'approcher la personne, ce que vous disiez tout à l'heure, et de modifier les regards qu'on peut poser sur elle, et qu'il y a autre chose derrière, la personne est plurielle.
Oui. Oui, c'est vrai, il faut accepter de se faire conduire en fait par les personnes handicapées, voilà, dans ce qu'elles savent faire. Et accepter que la personne soit vraiment le moteur de son propre projet. Et donc, nous, être là simplement en soutien, en relais, quand il y a nécessité de le faire. Mais il y a beaucoup de périodes dans la vie d'une personne en situation de handicap où elle peut tout à fait faire toute seule et être acteur de sa propre vie.
Du coup, on évoquait aussi avec Albert Strickler, alors je reviens au projet culture pour la DAPI, on voyait que le maillage justement avec le secteur culturel s'était fabriqué, s'était aussi imposé au fur et à mesure des années. Vous aussi, c'est un côté qui vous semble aussi important, c'est-à-dire que du coup, petit à petit, prendre connaissance des différents acteurs culturels, là aussi chacun peut jouer finalement sa partition quelque part, et la nécessité d'unir un petit peu ses voix.
La nécessité de faire du lien, oui, et de tirer de l'expérience des autres un enrichissement de ce que nous faisons, parce qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Alors, en échangeant, on peut avancer plus vite, bien évidemment. Et puis, bon, quand même, le monde de la culture, c'est un monde de réseau. Donc, c'est important qu'on en fasse partie. Sinon, on n'est pas, on est à côté et on a du mal à avancer. Mais oui, que les acteurs soient liés, c'est important. Voilà, d'ailleurs, je vais prendre contact très rapidement avec M. Strickler.
Oui, voilà, oui, il fait partie des endroits. On évoquait à ce micro dans cette émission, justement avec Delphine Morel, qui était aussi à Montpellier, avec la compagnie La Bulle Bleue.
Oui.
Et là, qui, à la différence de l'ESAT de Célestat, est tout nouveau, puisqu'il y a quelques 22 ans d'existence à peine. Mais on sent les mêmes préoccupations. Hein, si on voit dans les propos de Delphine Morel aussi cette implication de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire comment la personne est acteur, effectivement, en elle-même, et comment, du coup, tout le projet se relie aussi à une vie culturelle et s'implique dans un territoire et essaye, en tout cas, d'être une partie prenante de ce paysage culturel.
Oui, ce qui est complexe pour nous, c'est de trouver le bon cadre juridique. Voilà, parce que derrière, évidemment, il y a les financements, enfin voilà, c'est facilitant. Sur l'impulsion, sur le dynamisme, sur l'envie de faire, ça existe.
Ça existe fort.
Oui. Mais le cadre juridique, c'était complexe. Et même aujourd'hui, ces structures-là, les ESAT, artistiques notamment, ont du mal à trouver leur place dans notre secteur médico-social.
C'est vrai qu'on voit que ce chemine ou s'entrechoque quelquefois des fonctionnements du culturel et des fonctionnements du médico-social qui forcément, de par les postures professionnelles, ne sont pas les mêmes dans leur fonctionnement et même leur réglementation.
Oui.
Et effectivement, d'essayer de rapprocher ou de tenir compte de l'une ou de l'autre, effectivement, bute sur, là aussi, les aspects réglementaires. Mais quand on regardait la phrase de Cocteau qu'on a prononcée en début d'émission, c'est parce que c'était impossible que nous l'avons fait. Voilà, on se dit aussi que cette phrase, elle peut peut-être, en tout cas, d'être dans une mobilité d'esprit. Effectivement, on bute sur des choses et c'est là où la compréhension des uns et des autres, je crois, peut être important. Amener les acteurs du médico-social à travailler aussi et réfléchir ensemble avec ceux du culturel et vice-versa, ça paraît une nécessité, quoi, effectivement.
Oui, c'est un peu la question du risque. C'est-à-dire, quel risque on prend ? Est-ce qu'on fonce, est-ce qu'on prend le risque ou est-ce qu'on se dit non, on attend la prochaine loi? Bon, il y a des moments, surtout dans notre activité médico-sociale, où on sait que le risque, ça fait partie de notre métier. On le prend parce qu'on a un objectif, parce qu'on sait que c'est au bénéfice de la personne handicapée. Et donc, et puis on se dit, bon, et puis après on verra, quoi. Et puis à un moment donné, il y aura une loi qui mettra un cadre, bon, tant mieux, quoi. Et sinon, on n'avance pas.
Je trouve que ça, c'est important. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission.
Merci à vous.
Vraiment. Et donc, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Vous savez que vous pourrez la retrouver jeudi prochain de 16h à 17h, puis mardi à nouveau de 13h à 14h, que vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, pour écouter votre radio préférée, qui est Radio Tropique, en direct ou en différé. Vous pouvez ou podcaster et connaître la grille des programmes. Vous pouvez vous rendre également sur www.tropicfm.org. Aujourd'hui, j'étais accompagné de Josie Josserand et de Simon Deborne à la technique. Nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous. Merci de votre confiance et de votre curiosité. Et à très vite.
Une émission présentée par Alain Goudard.
Merci Josie. À bientôt.
FM 90.0, la radio de Bourg-en-Bresse et des Pays de l'Ain.